Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct avec vous, bien entendu, avec notre invité. Hein, notre invité de la comédie au drame. Vous allez le découvrir.
La comédie.
La comédie.
La comédie, c'est des comédies avec de la drogue. La comédie.
J'ai mouché dès l'entrée
de
l'émission.
C'est normal. On discutait beaucoup en antenne et là, d'un coup, tu commences les pieds dans le tapis, tu rires.
C'est vrai. De la comédie au drame, je la refais. Notre invité du jour, qu'on pourrait qualifier sans trop se tromper, d'un artiste avec un grand A. Là, vous n'avez pas mouché. Là.
Bonjour, non. Artiste, je revendique, je dirais plutôt un artisan.
Un artisan.
Oui, un artisan.
Comédien et chanteur.
Artisan, c'est la première profession en France, hein, les artisans. Donc voilà, j'en fais partie.
Elle a exploré avec talent toutes les facettes de son métier d'artisan. Donc, il a marqué toute une génération. C'était le Morning Love sur M6 dans les années 2000. Il a joué au cinéma de nombreux films à succès. Les 11 commandements, Is No Good également. Il a réalisé Fatal, Divorce Club. Il a chanté avec les...
Bratislava Boys.
Exactement.
Fatal Bazooka.
Exactement. Il a écrit aussi des scénarios. S'il vient nous voir sur ce plateau, c'est parce qu'il s'apprête à jouer l'un des rôles importants, principaux dans une série poignante qui marquera sûrement chaque téléspectateur au fer rouge. Michael Youn, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour chez vous.
Bonjour chez vous.
Ouais.
Bienvenue.
Ouais, t'as vu, old school, ouais, bonjour bien. Chez vous. À vous, Kodiak. L'ordinateur, le téléphone, tout ça, c'est chez les gens. Hein.
C'est vrai. Jeudi soir, TF1 donne le coup d'envoi d'une nouvelle série, une mini-série en 6 épisodes, Fugueuse. Première partie de soirée, une fiction dans laquelle vous endossez le rôle de Stéphane, le papa d'une adolescente de 10 ans, un peu rebelle et surtout qui va faire de mauvaises 16
ans.
Rencontres.
Vous avez dit 10 ans, une adolescente de 10 ans qui se
prostitue. De 16 ans, pardon.
Ça devient déjà que la série, deuxième, quand même, elle est dure.
Deuxième
d'un coup,
accident.
Là, elle se prostitue à 10 ans.
16 ans.
pardon.
Est-ce qu'il y a un métier dans... Je disais tout à l'heure, vous avez été humoriste, acteur, réalisateur, scénariste, producteur et chanteur. Est-ce qu'il y a un métier auquel vous n'avez pas encore goûté?
Ah oui,
outre l'artisanat dont vous parliez.
Non, mais il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que dans le métier du spectacle, de l'entertainment, je ne vois pas pourquoi on devrait se limiter. On dit souvent en France, on range les gens dans des cases. Mmh. Je suis une des preuves que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Franck Dubosc, Cadmerade, on voit qu'il peut passer de la chanson au drame, à des séries super dures, continuer à faire Jean-Michel à peu près. J'ai l'impression que moi aussi, on m'a toujours laissé la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire, pardon, pouvoir faire ce grand écart entre des drames à la télé, des choses plus légères, plus rigolotes au cinéma.
Et il y a une casquette, entre guillemets, que vous préférez ?
Celle que je préfère, je crois que c'est celle de réalisateur. Le côté chef d'orchestre, j'aime beaucoup. C'est le métier le plus complet, c'est aussi le plus difficile. Et puis, c'est peut-être celui que je vais pouvoir faire le plus longtemps.
Il y a quelques projets, mais on va y revenir. Nous sommes en direct sur Figaro Live, je le rappelle, avec le Buzz Télé, diffusé également sur le Figaro, bien sûr.fr et la page YouTube de TV Mag. Profitez de ces instants, en effet, pour voir ce que vous préférez dans la carrière de Michael Youn, le Morning Night. Est-ce qui vous manque aujourd'hui, c'est le Morning Night, on en parlera tout à l'heure. Dites-nous tout et en attendant, je vous propose de retrouver Damien Canivez pour les news médias du jour. Damien, très studieux, qui prenait des notes.
Ah, toujours. Je cherche des potentiels titres pour mon article, Philippe. Ça,
il bachote. Dernier moment. Là, je pense que c'est pas ça.
Michael, on démarre toujours ces news médias par les audiences télé de la veille.
Et c'est France 2 qui est arrivé en tête des audiences avec l'épilogue de la série Les Invisibles. Les deux épisodes inédits ont rassemblé 4,2 millions de fidèles, ce qui représente 20,8% de part d'audience et 800 000 téléspectateurs de plus que TF1. Qu'est-ce qui s'est passé, Michael? Votre chaîne, elle arrive deuxième avec Good Doctor, la série médicale. Bon, vous n'y pouvez rien, vous n'êtes pas dedans. Série américaine portée par Freddie Highmore. Ensuite, on a sur M6, troisième marche du podium, Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest, 2,6 millions de gourmands, soit 13,2% du public. Et enfin, on termine avec France 3 qui mange la soupe à la grimace, malheureusement, avec Cuisine ouverte. Soupe à la grimace, cuisine ouverte.
Tintin.
Voilà. Avec Maurice Sacco, l'ancien candidat de Top Chef, justement, qui n'a convaincu que 767 000 téléspectateurs, soit 4,2% de part d'audience.
On voit la fiction française fait des cartons d'audience. Comment vous l'expliquez?
Elle a beaucoup progressé. Elle est très créative, très riche. Elle parle de sujets sociétaux qui sont forts, qui touchent les téléspectateurs. Ça ressemble plus du tout à la fiction des années 80-90 qui marchait, hein, mais qui n'était pas vraiment un miroir de ce qui se passait dans la rue. J'ai l'impression que, et artistiquement et au niveau des sujets, ça a monté en grade. Ça a commencé avec les séries de Canal+, et que ce soit France Télé ou TF1 et M6 aussi, si peut-être ils vont s'y mettre. Ça a beaucoup progressé, ouais.
On poursuit cette news média avec France 2 qui digère mal la programmation de BFM Télé ce soir.
Exactement. Nos confrères de Pure Média rapportent que la chaîne de service public grasse un petit peu des dents depuis quelques jours, car ce soir, elle lance en prime time une nouvelle émission politique baptisée Élysée 2022 avec Valérie Pécresse en invité fil rouge et juste en face, BFM TV. BFM TV qui a décidé d'organiser un combat de boxe qui sent le spectacle à plein nez entre le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et le candidat qui n'est pas encore déclaré à la présidentielle, Éric Zemmour.
Zorro.
Ah, Zorro, effectivement. Et dans les murs de France 2, certains dénoncent une volonté de nuire plutôt que d'informer.
Ce débat, donc Mélenchon-Zemmour, hein, qui est attendu, il sera face à votre série ce soir.
C'est pour ça le plus simple.
Sur TF1. Est-ce que
vous hésitez entre Valérie, Éric et Mélenchon, allez sur TF1, il y a Fugueuse comme ça, voilà.
C'est une bonne ou mauvaise nouvelle, plus sérieusement?
Le débat Zemmour...
Non, le fait qu'il soit en concurrence avec vous.
Je ne pense pas que ce soit exactement les mêmes cibles. Je ne suis pas sûr que Zemmour-Mélenchon va prendre beaucoup de téléspectateurs à TF1. Je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un débat très masculin pour ceux qui ont envie d'un peu de soufre. Puis déjà, il faut partager un peu quand même les idées d'un des deux gars, quoi, parce que sinon, bon, bah voilà, si tu sais très bien ce que tu en penses, tu n'y vas pas. Et les gens qui vont regarder Fugueuse sont des gens qui sont tolérants, qui ont les idées bien au milieu et qui sont très contents.
Donc ce qui n'est pas le cas de M. Zemmour et de M. Mélenchon, si je rebondis.
C'est pas un scoop de dire qu'ils sont plutôt sur les côtés qu'au milieu. Hein. Voilà.
C'est dit. Voilà. On finit ces news médias. Corinne Massiro qui revient sur son coup de gueule et, entre guillemets...
Ce petit happening. Souvenez-vous, César. Vous avez suivi ça?
Oui.
L'héroïne de Capitaine Marlowe. Elle s'était rendue, souvenez-vous, à l'Olympia le 12 mars dernier pour remettre le César du meilleur costume. Elle est arrivée sur scène avec un costume de peau d'âne un peu ensangloté. Et puis, au fil de son discours, qui, c'est vrai, était un peu revendicatif, elle a décidé d'ôter son costume, laissant apparaître des inscriptions peintes sur son dos. Rends-nous l'art, plus loin, Jean. Et sur sa poitrine, No culture, no future. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est pas de culture, pas de futur. Et récemment, sur TV5 Monde, elle a décidé de revenir un petit peu sur ce happening en indiquant qu'elle avait hésité jusqu'au bout avant de le faire et que finalement, elle a décidé de le faire et je la cite, elle s'est chiée dessus.
Voilà. Ça vous a fait rire ou ça vous a attristé?
Moi, j'aime beaucoup Corinne. Elle va à fond dans ce qu'elle fait. Elle a un vécu qui est le sien. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle a une personnalité qui détonne. Moi, j'adore. Après, je peut comprendre qu'on n'aime pas, ça me pose... c'est une expression artistique, elle veut provoquer une réaction, parfois ça va être le rire, parfois ça va être elle m'énerve, mais elle le sait. Je ne pense pas qu'elle cherche à être aimée par tout le monde, sinon tu ne fais pas ça.
La réaction a eu lieu en tous les cas.
Pardon ?
La réaction a eu lieu en tous les cas.
Oui.
Clairement.
Les réactions même.
Merci Damien avec pour plaisir. Ces news médias et place tout de suite avec Michael Young à l'interview du Buzz Télé. Allez, Fugueuse, c'est ce soir, TF1 en prime time, mini-série de 6 épisodes. J'ai interprété le rôle de Stéphane, un père très investi dans sa vie de famille, mais les liens avec sa fille de 16 ans vont se dégrader au point même qu'elle va finir par fuguer et tomber dans la prostitution. Quel est l'objectif de cette série? C'est quoi? C'est alerter à la fois les parents que nous sommes tous sur ce fléau, c'est donner un mode d'emploi, des clés pour savoir comment son enfant évolue?
Le premier objectif, c'est déjà de raconter une belle histoire. Quand je dis belle, c'est une histoire forte. Voilà. C'est de raconter une histoire forte, une histoire qui vous prend aux tripes, qui vous touche, que vous soyez parent ou que vous soyez enfant, adolescent, dans l'âge de vivre ce que vit cette Léa dans la série. Et après, effectivement, quand on se rend compte qu'en France, il y a, les chiffres sont faux, hein, parce que c'est plus que ça, il y a plus de 10 000 mineurs qui se prostituent, que ce soit des filles ou des garçons, qu'avec les réseaux sociaux, l'anonymat sur les réseaux, les sites qui font de l'escorting sans vérifier l'identité ni l'âge des gens qui s'y inscrivent, etc., etc., on se rend compte qu'on est dans quelque chose d'extrêmement violent en ce moment, d'extrêmement sociétal, et on s'en est rendu compte un petit peu pendant la promo de Fugueuse. C'est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait.
Damien, une première question ou réaction?
Oui, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Alors, il y a déjà pas mal de réactions. On salue Alexandre, Jean-Laurent. Et tiens, on va prendre une question d'Alexandre qui souhaite rebondir par rapport à la dernière news média sur les Césars. Il aimerait savoir si un jour, ça vous plairait d'animer cette cérémonie.
Ah, moi, ça me plairait. Maintenant, je n'ai pas l'impression que ça leur plaise à eux puisqu'ils ne m'ont jamais contacté.
Ah bon, ils ne m'ont jamais contacté.
Voilà, autant TF1 m'a contacté pour les Energy Awards, M6 m'a contacté pour les W9, etc., etc. Canal, jamais.
Jamais, mais ce sera un sacré pari pour vous, parce qu'on sait que c'est compliqué de faire rire une salle entière qui est, voilà, tire à quatre épingles.
Après, je crois qu'ils peuvent vivre sans moi et réciproque.
Réciproquement.
Et réciproque.
On revient à Fugueuse. Comment vous définiriez le rôle de père que vous jouez?
C'est un père qui... Cette famille n'est pas complètement dysfonctionnelle. Hein. C'est une famille qu'on a voulu construire avec le réalisateur Jérôme Cornion, une famille un petit peu comme les autres. Donc il y a du dialogue, il y a de l'amour, et puis il y a aussi des points d'achoppement, des secrets. Le gros problème de ce père, c'est qu'il aime beaucoup sa fille et il refuse un petit peu de la voir grandir. Il refuse de voir qu'à 16 ans, elle commence à avoir envie de devenir une femme avec une sexualité, etc. Donc il la considère encore un peu comme son bébé. Et puis très vite, il va devenir un petit peu... un peu trop immûr, un peu trop intransigeant, en quelque sorte, et puis il va basculer après dans une espèce d'impuissance, une incompréhension, quand sa fille va tomber dans ce drame qu'est la prostitution. Elle va tomber sous l'emprise d'un garçon plus vieux qui, d'abord, la met dans les mains de mauvaises personnes, un peu malencontreusement, et puis après qui va se rendre compte qu'il y a un vrai filon à exploiter avec cette jeune et jolie jeune fille. Et toute la famille bascule dans le drame.
Est-ce que c'est inspiré d'un fait divers, comme c'est le cas d'une autre série dont on vous a découvert depuis lundi sur TF1, une affaire française sur...
Alors, c'est inspiré d'une série québécoise, mais depuis qu'on a tourné, on a beaucoup discuté avec différentes filles qui ont vécu des aventures dramatiques et qui sont tombées dans la prostitution. Cette histoire, strictement la même, nous a déjà été racontée 3-4 fois, quoi. De la fille qui tombe dans les mains d'un mec plus vieux, qui dit tiens, commence à coucher avec lui, et puis elle le fait par amour, puis progressivement, et puis après ces filles, leur corps ne leur appartient plus, il appartient à des mecs qui sont dans des maisons de dressage. On bascule très très vite dans l'horreur, quoi. Et donc, il faut quand même se dire qu'il y a des mecs qui consomment ça.
Donc il y a des
pères de famille et il y a des clients qui consomment des jeunes filles, il y a des clients qui consomment des jeunes garçons et à qui ça ne pose aucun problème moral.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Teddy qui a pu voir la série Fugueuse en avant-première. Alors sans doute Teddy est abonné à Salto, hein, la plateforme qui propose effectivement cette série.
Ça marche très très fort sur Salto. Ouais.
Il a senti que votre jeu a monté en puissance au cours des épisodes. Est-ce que c'est votre sentiment?
Eh ben, j'aime beaucoup ce Teddy.
Parce que c'est votre sentiment aussi.
Après... je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est sûr que c'est plus facile de faire, je ne vais pas dire une démonstration, mais c'est plus facile d'être émouvant quand on joue le père d'une petite qui se prostitue qu'en faisant un rappeur qui tombe en désuétude parce qu'il n'est plus à la mode et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Quoi. Et forcément, il y en a un, je vais vous faire marrer, mais vous dire « bon, ce n'est pas compliqué », et l'autre, vous allez dire « putain, c'est plus dense ». Alors que c'est... Je ne vais pas dire que c'est plus facile de jouer dans le drame, mais je ne prends pas le risque dans le drame de ne pas faire rire. Dans la comédie, ce qui est compliqué, c'est de ne pas faire rire quand vous voulez faire rire. Ouais. Donc là, on vous dit, vous êtes planté. Dans le drame, au pire, vous allez dire, c'est pas pour moi, je ne suis pas touché. La comédie demande plus de rigueur, plus de rythmique, c'est plus extérieur, certes. Le drame, voilà, c'est plus intérieur, vous devez sentir le sentiment, mais c'est pas plus difficile, en tout cas.
Le scénario, il est très réaliste ou pas?
Oui, assez, oui.
Oui.
Oui. Oui, oui, pourquoi? Je sens le piège. Ah ouais. Non, non. Vous trouvez que 20 euros, c'est réaliste? Vous savez combien elle m'a coûté la dernière?
C'est une série de fiction quand même, on est dans le domaine.
Non, c'est une fiction, mais...
C'est pas un documentaire sur la prostitution des
jeunes. C'est pas un documentaire, mais on s'est posé la question tous les jours avec, avec Jérôme, le réalisateur, tous les jours, comment est-ce qu'on réagirait dans ce cas-là? Est-ce que ça, c'est possible? Que fait la police dans ce cas-là? À un moment, on est en Belgique, forcément, bah, c'est pas tout à fait les mêmes lois, c'est pas tout à fait le même mode opératoire. Il décide, mon personnage et sa femme, jouée par Sylvie Testu, ils décident d'aller sauver eux-mêmes leur fille. On a essayé d'être le plus réaliste possible avec les armes à notre disposition dans un pays où les armes ne sont pas en vente libre, quoi.
Damien.
Allez, on va prendre dans quelques instants une question de Sarah, mais tout d'abord une question de Bertrand qui nous a été envoyée sur Twitter et qui souhaite savoir si vous, les réseaux sociaux vous font peur par rapport à vos enfants.
Peur, non. Je suis un fervent militant de la disparition de l'anonymat en revanche. Ouais. C'est-à-dire que je compte m'y engager, je ne sais pas comment, il faut que je m'interroge avec moi-même. J'aimerais lancer un mouvement avec je ne sais pas qui, plein de gens qui voudraient, pour qu'on arrête avec l'anonymat. Ouais. C'est pas compliqué, mon beau-fils s'est fait contrôler par la police il n'y a pas longtemps, il n'avait pas son papier d'identité, il a proposé aux flics pour vérifier son identité son profil Instagram. Il a vu que c'était le même, il a dit ok, donc il a pu vérifier comme ça. Si un gosse de 20 ans, quand il se fait arrêter par la police, donne un profil Instagram, ça veut dire que c'est une sorte de carte d'identité. C'est pareil sur Twitter. Voilà, donc ça me fait peur à ce niveau-là. Je veux la fin de l'anonymat. Voilà, qu'on sache que derrière un nom, il y a un âge, il y a une adresse, il y a quelqu'un. Et comme ça, ça évitera aussi que des trombeaux de haine se déversent. Pas accidentellement.
Mais vous n'avez pas peur que votre fille tombe, entre guillemets, sur des personnes un peu malveillantes ?
Je l'ai déjà vu, juste à côté de moi, elle cherchait un tuto pour fabriquer du slime. En trois clics, elle tombe sur du porno, quoi.
Ah oui ?
Il faut faire attention. Mais après, bon, il y a des applications pour restreindre.
Ils sont pas infaillibles.
C'est pas infaillible. Puis c'était pareil avec nos parents. Quand on était devant la télé, quand on tombait sur Canal+, un peu tard, qu'est-ce que tu regardes? Rien. Donc, de toute façon, tout ça va se réguler, s'auto-réguler. J'ai vu que Apple voulait maintenant espionner en quelque sorte les conversations et repérer quand il y avait des mineurs et repérer quand il y avait de l'envoi de photos, de la nudité, etc. Donc, on a des tels algorithmes aujourd'hui qui permettent de savoir si oui ou non on est des terroristes. Je pense qu'on est capable de fabriquer des algorithmes pour savoir si oui ou non il y a de la pédophilie. Donc, à l'instant T, ça me fait un peu peur, mais je sais que tout ça va s'auto-réguler parce que c'est dans le sens de l'histoire.
Alors, vous êtes vous-même papa d'une fille, je crois qu'il y a 10 ans, ça qui vient d'être. C'est 10 ans. En quoi l'histoire qu'on raconte, en effet, ce soir, dans cette série, a résonné en vous?
Vous vous projetez, forcément. C'est comme ce que vous me disiez avec les réseaux sociaux, vous dites si jamais ça m'arrive, oh non, je veux pas que ça m'arrive. Déjà, c'est très très dur de se projeter, ça vous aide à construire votre personnage, mais vous n'avez pas envie, parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation aussi abominable. Parce qu'on est une famille sans histoire. J'imagine que, c'est horrible ce que je vais dire, mais dans des familles à problème avec de l'alcoolisme, de l'absence, de la violence, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus logiques, mais nous, on est une famille sans histoire. Et donc voilà, il y a vraiment cette incompréhension. Et de temps en temps, quand j'avais besoin de trouver le bon sentiment, la bonne réaction, je pensais à ma fille qui s'appelle Seven. Donc je changeais les prénoms, j'enlevais Léa, je mettais Seven. Et là, je disais, OK, je veux tout de suite retirer Seven et basculer sur Léa parce que je basculais dans quelque chose d'extrêmement difficile. Mais ça m'a aidé sur les scènes les plus durs, oui.
Et est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder facilement, justement, ce sujet de la prostitution chez les jeunes femmes, avec sa fille, et à quel âge ?
Elle a 10 ans, mais je ne me vois pas lui en parler là. Non, parce que c'est marrant, parce que je vais faire la même erreur que les parents de Léa dans la série. C'est pas une fille à problème, monsieur. Donc je ne vois pas pourquoi ça lui arriverait.
Mais Léa n'est pas une fille à problème non plus.
C'est pour ça que je dis... Et on y a de la prostitution spontanée, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Donc il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont manipulés, soit par amour, soit pour l'argent, évidemment. Mais là, dans la série, en l'occurrence, c'est quelqu'un, elle tombe amoureuse et elle est prête à faire n'importe quoi pour lui. Je verrai quand Seven va commencer à me ramener des garçons à la maison, ou les filles, hein, puisque maintenant, il faut qu'on dise que tout est possible.
Hein. Il y aura un entretien d'embauche, c'est ça, non ?
Il y aura un petit entretien d'embauche. On verra si le ou la candidate mérite ma fille.
C'est
allez, on va prendre la question de Sarah. Tiens, elle aimerait savoir si vous pensez un jour vous lancer dans le cinéma à l'international. Est-ce que Steven Spielberg vous a appelé, pas encore ?
Non, j'ai déjà discuté avec un producteur il n'y a pas longtemps d'un film qu'on a commencé à écrire. Je ne suis pas à des kilomètres de vouloir le tourner en anglais. Voilà. Alors, c'est un peu dommage, parce qu'il faut qu'on continue à cultiver notre cinéma et qu'on continue à l'alimenter avec des projets créatifs. Mais c'est vrai que voilà, tourner un film en langue anglaise, ça me plairait. Après, en tant qu'acteur, j'ai déjà fait quelques petits essais à gauche à droite. Je précise, hein, s'il y a des réalisateurs américains, australiens, anglais ou espagnols. Ok, hablo español también. And I can act in English. There's no problem.
Non, mais la Casa de Papel, c'est terminé. Il n'y aura pas d'autres saisons, Michael.
Oui, mais vous savez, l'espagnol est une langue qui pousse et peut-être qu'un jour, on me retrouvera en Argentine. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Comme ça.
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une double exposition de vous aujourd'hui en tant qu'acteur sur TF1. Il y a eu en effet une affaire française qui a débuté lundi, mini-série également, six épisodes. C'est l'affaire, on le rappelle, l'affaire du petit Grégory. Psychologiquement, c'est pas dur ou compliqué d'endosser ces rôles sombres, alors qu'ils sont diffusés au même moment, j'imagine, c'est des hasards du calendrier. Oui. De programmation de la chaîne, mais...
Alors, c'est pas du tout compliqué.
Vous aviez dit, sinon, je veux faire plus que des rôles sombres.
Non, mais c'est pas du tout compliqué. Au contraire, je suis beaucoup plus détendu sur ces projets-là que sur mes projets à moi, qui sont des projets de comédie. Parce que quand j'arrive sur une affaire française ou sur Fugueuse, je me mets au service d'un sujet, je me mets au service d'un réalisateur. C'est pas mon univers, je l'écoute, je n'ai pas de responsabilité sur les épaules autre que celle de la série. Si, quand je suis sur un projet à moi, j'ai les millions avec lesquels on a financé, est-ce que je suis drôle quand je fais ça, je me pose beaucoup de questions qui fait que c'est assez lourd. Et là, je peux vous assurer que quand j'arrive sur ces projets-là, le matin, je suis une petite fleur bleue et je suis une petite fleur bleue qui repart. Je ne suis que joie, amour, harmonie, détente. Je suis un bonheur pour toute l'équipe, chose que je ne suis pas toujours sur une comédie parce que je m'interroge plus. Je doute, en fait, je doute beaucoup plus. Oui.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Quentin qui rejoint d'ailleurs une autre d'Alexandre qui aimerait savoir à quand le retour du Morning Night sur M6 ?
Eh bien, c'est bientôt, c'est pour bientôt. Le troisième numéro sera pour la fin de l'année 2022, parce que on s'en rend pas compte comme ça. On dit, ah bon, vous bossez quand même ? Non, mais c'est beaucoup de travail d'écriture, les sketchs, ça prend du temps à tourner, les préparations avec les invités. On a essayé aussi on a fait des vraies réunions avec des téléspectateurs pour essayer de faire évoluer notre émission.
Ah oui, vous avez demandé.
C'est notre petit bijou à Vincent et à Benjamin. On n'a pas besoin d'en faire 50 par an. On veut vraiment s'amuser à les faire et que ça nous corresponde. Donc on a vu ce qu'on avait raté. Voilà, on veut que ce soit un événement. On veut que ça continue à être un écrin. Donc il y en aura une, deux par an, pas plus. Et la prochaine, voilà, c'est pour, on va se dire, juin 2022.
Et vous savez quels sont les invités qui seront dans le troisième volet ?
Je le sais, mais je n'ai pas le droit de le dire.
Oh, mais avec nous, vous pouvez le
dire, mais je ne le sais pas.
M6 vous a donné la dérogation, vous pouvez le dire au buzz.
Non, mais je ne vous le dirai pas.
Le Morning Love qui vous, entre guillemets, colle à la peau, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Ou parfois, ça vous agace en disant...
En tout cas, c'est comme ça. Puis c'est une étiquette que je me suis collée moi. Donc il y a un moment, si je dois en vouloir à quelqu'un, ça va être compliqué. C'est par moments un peu lourd, mais aussi, je ne serais pas devant vous s'il n'y avait pas eu ça. C'est aussi ce qui m'a permis de défoncer la porte à coups de pied, d'arriver dans le monde des médias, du spectacle, du divertissement, en disant « Hello, j'existe, regardez, je fais du bruit ». C'est un oncle gênant, mais en même temps, on l'aime beaucoup. Voilà, c'est ça le Morning Live, par rapport à moi. C'est l'oncle qui fait des sales blagues à table et en même temps, on ne peut pas lui en vouloir. C'est lui qui a payé le dîner, quoi.
Allez, on reste dans la confession avec une nouvelle rubrique qui va inaugurer dans cette rentrée qui s'appelle « En toute franchise ». En toute franchise, c'est sympa. Vous répondez avec simplicité, mais
surtout... jusqu'à présent, j'étais faux.
Avec sincérité. Non, vous n'étiez pas focus.
Non, ça fait plaisir.
Le plus beau souvenir de votre carrière.
J'ai pas eu beaucoup de récompenses, mais c'est vrai que avec mes copains, Arnaud Ducré, François-Xavier Demaison, quand on était à l'Alpe d'Huez et que...
Festival de la comédie.
Le Festival de la comédie, le prix de la presse et le prix du meilleur film, j'ai versé ma petite larme. Je ne pensais pas que j'étais dans cette catégorie-là de mecs qui étaient émus parce qu'on leur remettait un prix, il va chialer. Et après, sur scène, je suis parti, j'avais rien prévu, et puis j'ai fait 10 minutes, qui étaient parfois drôles, parfois émouvantes, parfois peut-être aussi un peu pathétiques. C'est une belle émotion. Après, est-ce que c'est le plus beau moment de ma carrière ? Je pense pas, mais c'est celui qui m'est venu là quand vous m'avez posé la question.
Et le plus récent, j'imagine aussi.
C'est aussi, oui, le plus récent. Après, j'ai fait des belles rencontres, Jacques Villeray, Jean Reno... j'estime que la plus... C'est demain, quoi. Voilà, je vais vous dire ça plutôt.
On attend demain, donc.
Voilà.
Et votre pire souvenir ?
J'ai eu un tournage vraiment difficile avec quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis vraiment fan, qui s'appelle Christian Clavier.
Ouais.
Donc je suis fan depuis ma plus tendre enfance, des Bronzés, Mes meilleurs copains, ouais. Le Père Noël est une ordure. Je suis vraiment fan de Christian. Et on n'a pas accroché humainement... Je ne lui fais pas porter le chapeau. Je dis juste qu'on n'a pas accroché humainement.
Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?
Je ne sais pas. On était deux aimants contraires. Enfin, deux aimants similaires. Voilà, ça se repoussait un petit peu, alors que j'avais... Et du coup, le tournage a été... C'était en Afrique du Sud, il faisait 56 degrés. On était tous un peu perdus, on est tous devenus un peu dingues. Et les rapports étaient extrêmement tendus, extrêmement désagréables. Et c'était dommage, parce que j'allais au festival, j'allais à la fête avec lui et je me suis retrouvé dans les toilettes à m'engueuler, quoi. Donc c'était mon expérience la plus difficile de tournage. C'est dommage. C'est vraiment un rendez-vous raté. C'est un rendez-vous chez les Malawas, ça s'appelait. Voilà. Et c'est un rendez-vous raté.
C'est dit. Est-ce que vous avez une manie, un tic ou un toc avant d'entrer sur scène ou d'entrer sur un tournage, un plateau de tournage ?
J'en avais beaucoup quand je faisais du one-man. J'ai essayé de m'en séparer parce que vraiment, quand on dit TOC, trouble obsessionnel compulsif, il y a trouble, ouais. Et il y a obsessionnel, et puis il y a compulsif. Il n'y a que des trucs désagréables.
Donc, rien ne va, quoi.
J'ai tout fait pour essayer de m'en séparer, y compris tout ce qui touchait à la superstition, des trucs très,
ah oui,
très bêtes.
Ça allait jusque-là.
Mais voilà, tu fais ça 30 fois... la prière avec l'équipe, rentrer sur scène du pied gauche, enfin, je les avais toutes, c'était insupportable. Non, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est d'être le plus détendu possible et d'y penser le moins possible. C'est-à-dire, j'essaye jusqu'au dernier moment, mais comme avec vous tout à l'heure, de parler d'autre chose, de pas être dans ce qu'on va faire pour au moment où on rentre. J'ai de la fraîcheur, de la spontanéité, etc. Je crois que le truc le plus simple, c'est débile, hein. C'est une petite hygiène de vie quand même, bien dormir, être détendu, être bienveillant, être content de faire ce métier. Je m'en suis rendu compte quand on a tourné Fugueuse, on a tourné pendant la pandémie, et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, tiens, j'ai la chance de pouvoir travailler. Je me suis rendu compte que travailler était un luxe, quoi, en France. Ça me fait peur, ça me fait froid dans le dos, parce que je vois que c'est pas comme si les chiffres du chômage étaient en train de baisser. Mais je suis content de pouvoir faire ce que je fais. Et sincèrement, c'est pas un truc que je dis devant les caméras. Voilà. Et quand ça, j'en ai conscience, par exemple, en arrivant ici, j'étais content de vous voir, je suis détendu en plateau et je suis content de vous parler. Et à un moment, vous allez me dire c'est fini, je vais vous dire, déjà.
Dans pas longtemps, mais on va rester encore un
petit peu.
Si vous aviez le pouvoir de faire renaître une seule personne, Michael, vous choisiriez qui ?
C'est dur. J'ai le droit à deux ?
Vous avez le droit à deux personnes, allez. Parce que c'est vous, hein ?
C'est exceptionnel.
Coluche et De Funès.
Pourquoi ? Ce sont vos mentors ?
Parce que Coluche, il est irremplaçable. Ouais. Et les gens ne se souviennent pas que Coluche, aujourd'hui, on dit il était super, il était drôle, les Restos du cœur, etc. Il était détesté par les 75% de la population, ouais. Coluche. Hein. Mais voilà, il avait, je trouve qu'il n'a pas été remplacé, peut-être aussi parce que l'époque fait qu'il n'est pas remplaçable et que maintenant, il y a une multitude d'eux et que c'est difficile. Il n'y a plus vraiment de courant politique. On est soit dans le courant, soit on est anti. Donc Coluche. Et puis parce que personne ne m'a jamais fait autant rire que Louis de Funès. Et que j'avais l'impression que c'était mon grand-père, quoi. Voilà. Et c'est deux gars pour qui j'ai pleuré quand ils sont morts, alors qu'ils font pas partie de ma famille, quoi.
Et vous les avez déjà croisés ?
Ah non. Non, jamais. J'ai eu la chance de croiser Johnny, de croiser Belmondo, mais j'ai pas eu la chance de croiser Louis de Funès ni Coluche. Donc voilà, ces deux-là, je pense qu'ils feraient du bien aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou dans votre apparence physique ?
Dans mon caractère, je suis parfois trop, on dirait pas, mais je suis parfois trop exigeant, trop perfectionniste, et ça peut me jouer des tours. J'aimerais mentir moins. Mais Mickaël, tu te rends compte que c'est pas, t'es pas chez Mireille Dumas, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais voilà, je suis à peu près en moyenne à 7-8 mensonges par jour. J'aimerais passer à 4 ou 5.
Est-ce que vous avez menti pendant cette interview, Mickaël ?
Évidemment.
Attendez, ça s'appelle en toute franchise, là, la rubrique.
Évidemment. Non, non, mais on ment tous. À la question, déjà, ça va ? Ça va ?
Oui, c'est
déjà,
vrai,
on ment. Le premier truc qu'on fait dans la journée, c'est mentir quand on vous demande comment ça va.
Vous n'allez pas bien ?
Mais si, mais après, on veut pas rentrer dans le détail. Il y a des choses qui sont plus compliquées. Non, mais en ce moment, c'est un peu, à la maison, c'est un peu le bordel. Donc,
vous pouvez le dire.
Voilà, et alors physiquement, non, je crois que je m'améliore.
Vous avez un problème de cheveux quand même, hein, on l'a vu ce matin. Ils sont trop propres vos cheveux, Mickaël, c'est ça votre problème.
Parce que j'ai confié des trucs, et voilà, et ça y est, les tocs repartent. Ah là 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 là. Non, j'ai des débuts de petits cheveux blancs, barbe blanche, c'est plus difficile de perdre les poignées d'amour qu'avant, ouais, mais bon, ça s'appelle être né en 1973, quoi. Je vous laisse calculer, chez vous.
C'est dit. Damien.
Allez, une dernière. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez ? Sentimentalement ou financièrement ? C'est vous qui choisissez.
Financièrement, il n'y en a pas. J'aime beaucoup l'art contemporain. J'ai des choses, j'ai des œuvres chez moi auxquelles je tiens, mais demain, je devrais les vendre pour des raisons X ou Y, besoin d'argent, ça ne me coûterait pas plus que ça. Donc, ça va plutôt être quelque chose de sentimental. C'est à ce moment-là que je deviens ridicule. Je vais vous dire que, en plus, c'est rangé dans un placard, j'y fais même pas attention, mais c'est l'image qui me vient là. C'est l'urne dans laquelle il y a les cendres de mon chien.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais, voilà quoi. Et puis je fais toujours une blague.
Vous étiez très attaché
là-dessus,
à votre chien.
On me dit, mais tu m'avais dit que tu avais un chien. Ben oui, j'ai un chien, il est dans le placard. Il est orange dans le placard. Et je sors l'urne et je la mets devant mes amis avant de leur servir.
Ça
un
jette
petit
un froid.
Oui, bah, vous connaissez mon humour. Non, mais je suis vraiment pas. Je suis pas très sentimental. Ouais. Et ça m'arrange.
Alors, il y a aussi, Mickaël, le chanteur, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une musique que vous écoutez actuellement en boucle ?
Bah,
une chanson ?
Ouais, mais alors là, je vais vous perdre. Hein.
Pourquoi ?
Moi, ce que j'écoute en ce moment, mais c'est ce qui m'a habité tout l'été, c'est Bande Organisée, quoi.
Ouais.
Oui, ma gars, t'es.
Ah oui, d'accord. Demandez-la, quoi.
Ah ouais, pourtant, je suis parisien, supporter du PSG, tout ça, mais... Ah ouais, Bande Organisée, ouais, le son de Jules et SCH, Marseille. Et les gars, il faut savoir rester jeune. Hein. Surtout, vous êtes dans les médias, il y a un moment...
On est resté à Danny Briand, nous, hein, vous savez.
Ah ouais non, mais si je vous dis, nique ta mère sur la canne bière, nique tes morts sur le vieux.
Oh là là, oh là là.
Rien.
Vous êtes sur Figaro Live, attention.
Non, bah, je peux. Dua Lipa, Levitating.
Et est-ce que vous écoutez parfois Fatal Bazooka ?
Non.
Non.
J'aime. Ma fille me les met souvent et je suis pas. Je veux bien les faire pour les autres, mais pas pour moi.
Merci, Mickaël, d'être venu sur ce
plateau
du Bacelé.
Déjà, c'est fini, je vous l'avais promis.
Ce soir, Fugueuse, hein, en prime time, avec, je crois, la diffusion de deux épisodes successifs. Merci encore d'être venu.
Et si je peux me permettre, derrière les deux épisodes,
Il y a un documentaire.
Il y a un documentaire sur la prostitution des mineurs présenté par Harry Roselmack.
Exact.
C'est dit.
Qui a un book.
Et demain, nous recevrons
Nous recevons une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, ancienne chroniqueuse de Balance ton poste, qui incarne sa propre émission. Un vendredi sur deux, il s'agit d'Agathe Oprou qui viendra nous parler de son nouveau programme qui s'appelle Un jeune, une solution.
Merci encore, très bonne journée.
Merci à vous.
Merci Mickaël.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable, mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.